toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans le luxe. Tout le monde regarde les directeurs artistiques, les défilés, les campagnes, les objets, les produits, etc. Mais beaucoup plus rarement, celles et ceux qui, en coulisses, grâce à leurs antennes et leur instinct, font le sourcing finalement de tous les créatifs qui façonneront les maisons de demain. Parce qu'au fond, recruter la création, c'est presque un métier de voyance. Il faut sentir les sensibilités émergentes avant qu'elles deviennent évidentes. Comprendre les mutations culturelles avant qu'elles ne soient visibles par tous. Et surtout, réussir à identifier, parmi des milliers de portfolios très bien exécutés, les rares personnes qui portent réellement quelque chose de singulier et dont l'impact pourra dépasser leur propre sensibilité. Et dans une période où la mode semble à la fois mondialisée, accélérée et parfois un peu standardisée, cette question devient passionnante. Qu'est-ce qu'un talent aujourd'hui ? Faut-il encore passer par les grandes capitales historiques ? Les jeunes créatifs rêvent-ils encore des grandes maisons ? Le luxe français reste-t-il un idéal mondial ? Et comment construit-on des équipes créatives internationales sans perdre une identité ? Mais aussi, comment faire que toutes ces nationalités entrent de concert au service d'une création commune ? Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Milly de la Valette, qui est à la tête de l'acquisition des talents créatifs chez Louis Vuitton, un métier peu connu, mais passionnant et absolument essentiel. Avec elle, nous allons parler de création, évidemment, mais aussi de transmission, de multiculturalité, de recrutement, de désir du luxe et du futur même des métiers créatifs au regard de toutes les différences nationales, mais toujours sous le règne de la sensibilité française. Alors avant de vous laisser avec l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez évidemment rejoindre Décousu sur Instagram Décousu Podcast, partager l'épisode autour de vous, mettre une note sur votre application de podcast ainsi qu'un commentaire. C'est une formidable façon d'aider le podcast à se développer. Allez, moi je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Madame Milly de la Valette, que je vais appeler Milly pour la suite de cet entretien. Donc, pour commencer, comment allez-vous, Milly ?
Oui, bonjour. Je vais très bien. Je viens de revenir de quelques voyages que nous allons discuter par la suite dans des écoles assez diverses et variées. Et je suis ravie de pouvoir discuter de mon parcours avec vous.
Eh ben c'est moi qui suis ravie de vous recevoir sur le podcast. Donc, effectivement, c'est vrai que vous avez un métier qui est assez spécifique et que j'ai trouvé passionnant, que j'ai découvert lors d'une conférence organisée par la Cité Éco. Et donc, vous êtes Head of Creative Talent Acquisition chez Louis Vuitton. Donc, est-ce que vous pourriez présenter votre métier pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout en quoi ça consiste ?
C'est vrai que talent acquisition, c'est un mot qui est arrivé il y a peut-être une quinzaine d'années, qui vient des États-Unis. En réalité, mon rôle est vraiment de faire la chasse des têtes. Donc, avant d'être arrivée chez Louis Vuitton, j'étais chasseur des têtes, spécialisée dans le luxe et la mode. Et quand Louis Vuitton m'a appelée pour venir ici et créer ce poste, à l'époque, ça n'existait pas vraiment, d'accord, le titre de Talent Acquisition. Et je suis arrivée pour implémenter le rôle de chasse des têtes.
D'accord. Et justement, là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la dimension vraiment créative de ce côté chasseur de tête. Et donc, pour comprendre en quoi consiste cet aspect vraiment plus créatif et surtout cet aspect aussi recherche de talent, comment vous définiriez-vous spécifiquement au regard de ce que pourraient être d'autres chasseurs de tête ? Qu'est-ce que vous faites concrètement d'un point de vue de la création chez Louis Vuitton ?
Alors, Vuitton, c'est une très grande maison. Et nous avons eu le besoin de séparer la chasse des têtes entre la partie créative et la partie produit. Donc, j'ai spécifié. Créatif, c'est tous les rôles qui sont liés de loin ou de près à la création. Donc, il y a évidemment le prêt-à-porter, les sacs, les chaussures. Donc, je cherche les designers qui font ces métiers-là. Et aussi, mais au sens large du terme, les architectes, les gens qui font des vitrines, les gens qui font des objets, les cadeaux, tout ce qui est même pour la communication, la partie... plusieurs merchandises, art direction pour la com, tous les graphistes, les gens qui font des vidéos pour les réseaux sociaux, par exemple. Donc, tout ce qui est lié à la créativité est de mon côté. Vuitton étant une très grande maison, il faut savoir que nous avons environ 350 salariés dans la partie créative au sens large, ce qui est énorme. Et donc, ça justifiait d'avoir une personne en charge que de ça.
Alors voilà, parce que justement, la raison pour laquelle aussi je voulais recevoir un profil comme le vôtre, c'est que forcément, indépendamment de la dimension luxury de la maison Louis Vuitton, c'est avant tout une maison aussi qui est très axée sur la créativité. Il suffit de regarder le travail de Nicolas Ghesquière dans le prêt-à-porter, qui est vraiment pour le coup un des plus créatifs, on va dire. Vraiment, c'est assez dur de le comparer à quelqu'un d'autre, mais on peut le retrouver aussi sur d'autres produits. Et donc aujourd'hui, on va en parler en fin d'épisode, mais on entre dans une phase de l'IA, beaucoup d'images, digitalisation, tout va très vite. Et donc finalement, c'est vrai que chez Louis Vuitton, est-ce que vous considérez que la créativité, c'est une ressource qu'il faut préserver et protéger et même stratégiser au même titre que d'autres ressources comme l'innovation ou voilà.
Mais complètement. Hein. D'ailleurs, l'IA pour nous est fermée. C'est-à-dire que nos designers ne peuvent pas aller sur n'importe quel... quel logiciel, donc c'est LVMH qui a créé un réseau interne et donc on utilise l'IA comme Photoshop, comme Illustrator. Enfin, c'est un outil qui aide les designers à peut-être utiliser des images auxquelles ils ne peuvent pas penser. Si vous mettez, je ne sais pas moi, jardin et chaussures, qu'est-ce que ça donne? Et donc c'est vrai que ça peut aider. Mais c'est peu utilisé encore. Je dois dire que nos designers sont encore beaucoup de dessins à la main, beaucoup de choses encore artisanales à la main, même dans la partie créative.
Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il ne faut pas penser ça comme une menace, mais plutôt comme un outil et s'imaginer comment est-ce qu'on peut l'utiliser.
Oui, parce que ça peut créer des nouvelles formes.
Tout à fait.
C'est ça qui est intéressant.
Et puis d'ailleurs, de nouveaux créatifs qui sont plus à même de les utiliser aussi. Mais donc, on a forcément entendu que vous aviez un petit accent, parce que vous-même, au-delà de cette dimension créative, vous avez aussi un œil projeté sur l'international. Ce qui est particulièrement intéressant, puisque forcément, quand on parle de créativité pour une maison française qui s'adresse à l'international, c'est aussi intéressant de voir en quoi la créativité étrangère peut être un vivier. Et donc, avant de parler de votre œil sur les créatifs étrangers potentiellement dans la maison, pour qu'on comprenne aussi votre sensibilité culturelle diverse, est-ce que vous pourriez parler aussi de vos différentes origines, puisqu'il me semble que vous croisez Brésil, Japon, vous êtes à Paris actuellement, donc ça permettra de comprendre aussi pourquoi vous avez une sensibilité aussi ouverte.
Alors effectivement, je suis donc d'origine japonaise, mais née au Brésil, des parents japonais qui étaient déjà nés au Brésil. Il y a une très grande communauté brésilienne, japonaise au Brésil. Et je suis issue de cette communauté. Alors, c'est vrai que ça va faire maintenant peut-être une trentaine d'années que je suis déjà à Paris, ce qui fait que c'est un grand mélange culturel. Et ça m'a permis de comprendre mieux les designers et même tout court mieux les gens, cerner des non-dits, parce que la culture japonaise, on ne parle pas beaucoup, c'est beaucoup corporel. La culture brésilienne, extrêmement ouverte et extrêmement extravertie, et la française, qui au contraire, c'est un mix des deux. Donc ça m'a permis de comprendre et de lire entre les lignes des choses que seulement un CV, on ne peut pas voir.
Oui, alors ça, c'est vrai que je trouve ça passionnant parce que c'est vrai que forcément, on a du mal à imaginer le mariage Brésil-Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, vous pouvez lire dans les interstices, en fait, entre les cultures, qu'est-ce qui va être intéressant en termes de vivier créatif. Et donc, il y a également cette dimension qui est très importante aujourd'hui en termes de clientèle, parce que ça bouge beaucoup, on n'est pas qu'auprès de Français, mais pour autant, Louis Vuitton est une maison française. Donc, il y a aussi cette dimension française qui va être cherchée par une clientèle, mais qui veut quand même qu'il y ait aussi quelque chose qui puisse lui parler. Donc, aujourd'hui, dans votre métier de chasseuse de tête vis-à-vis de la création, quelle importance vous mettriez-vous dans le regard international et dans le fait, justement, de donner voix au chapitre à des talents qui ne seraient pas forcément français?
Tout d'abord, nos clients sont internationaux. Et le secret, en fait, de pouvoir avoir un équilibre dans le design, c'est d'avoir des designers issus du monde entier. Et pourquoi je dis ça? C'est tellement important que c'est pour ça que je voyage beaucoup et c'est pour ça que je vais dans toutes les écoles du monde pour dénicher les talents qui vont pouvoir venir en France et s'acculturer. Effectivement, c'est très important d'avoir ce côté culture française parce que nos clients attendent ça. C'est le savoir-faire, c'est le métier, mais cette ouverture d'esprit parce que parmi mes expériences, j'ai pu constater que la manière de créer est différente dépendant de l'origine qu'on est. Le résultat est similaire souvent, mais comment on réfléchit est différent. Notamment, par exemple, j'étais au Japon et là-bas, tout est très intérieur. Donc, tout est très intellectuel, mais du côté niveau sentiment, son savoir-faire interne. Ils vont rechercher des inspirations là-dessus pour commencer à dessiner. Et à contrario, aux États-Unis par exemple, c'est beaucoup d'analyse externe, tout ce qui se passe autour de nous, les besoins des gens. Donc on va tout analyser, tout ce qui est autour de nous pour pouvoir dessiner. Et en France, et notamment en Europe, c'est beaucoup de savoir-faire. Donc on va commencer par la matière, on va commencer par les cuirs, les tissus, on les toucher. Et ensuite on imagine quelque chose, on commence à dessiner, en même temps on commence à faire des moulages. Donc chaque pays est tellement différent dans sa manière structurelle de processus créatif que c'est intéressant d'avoir ça dans un studio. C'est pour ça que dans nos studios, on a pratiquement... Enfin, je comptais l'autre jour, je crois, qu'on a plus de 37 nationalités différentes
oui.
dans tous nos studios, y compris l'architecture, parce que c'est ça la richesse, finalement, et le secret de la création.
Et alors, ça, c'est vraiment très intéressant, surtout dans une période, comme je le disais, en mutation constante. Et ça me rappelle d'ailleurs l'épisode qu'on avait fait avec d'ailleurs une maison que LVMH soutient, qui est la Fabrique Nomade, où justement Inès Mesmer, la fondatrice, parlait du fait qu'il est très important pour elle de valoriser la culture des personnes qui arrivent, donc souvent des migrants qui ont besoin aussi de trouver une place dans le tissu du luxe français. Mais justement, elle les forme à la sensibilité française à la fin. C'est-à-dire que c'est toute la sensibilité culturelle très diverse parce qu'il y a une maîtrise des codes et des attendus de l'excellence française qui justement permettent d'avoir un résultat qui va être très varié mais avec des codes un peu unifiés finalement qui fait cette essence française dont vous parliez également. Et alors c'est vrai qu'on est un peu curieuse de comprendre comment finalement de façon plus concrète sur le terrain ça va se traduire comme métier, puisque vous parliez beaucoup de vos voyages, donc concrètement j'imagine aussi que vous allez les chercher sur le terrain. Mais comment est-ce que vous commencez une recherche, c'est-à-dire est-ce que ce sont des studios qui font remonter vers vous des besoins, est-ce que c'est vous qui devez aussi identifier les besoins qu'il y a, est-ce que vous officiez uniquement dans le vêtement, l'architecture, dans la maroquinerie, où vous êtes très transverse, comment ça se passe un peu d'un côté faire remonter les besoins?
Généralement, alors mon rôle c'est vraiment de savoir tout ce qui se passe en termes d'organisation dans nos maisons concurrentes. Donc c'est essentiellement ça le rôle de chasseur des têtes et le rôle de talent acquisition, c'est de savoir qui fait quoi chez nos concurrents.
Chez vos concurrents ou chez LVMH?
Chez nos concurrents.
D'accord.
C'est-à-dire donc tous les groupes Kering, tous les groupes Chanel, Prada, Miu Miu, enfin les gens qui ont la même clientèle que nous. Et ils font pareil, hein. C'est pas seulement moi qui fais ça, c'est le métier des chasses de tête qui est comme ça. Donc on analyse, d'abord on connaît tout ce monde-là, on connaît tous les designers de toutes ces maisons-là, on les rencontre même quand on n'a pas de poste. Je suis des gens qui ont commencé junior design, qui aujourd'hui sont design direct, voire creative direct. Donc j'ai commencé, on les cultive. C'est pour nous un vrai client en fait. On parle de client lean et on traite les clients comme voilà, très important. Et c'est pour moi, mes clients, ce sont ces designers que j'accompagne depuis presque la sortie d'école et que je les connais depuis toujours et qui me font confiance parce que parfois, même avant j'étais un externe, j'étais dans un cabinet, dans une agence de recrutement, c'est vrai que c'est plus facile pour eux de venir me voir pour me dire « voilà, j'ai eu telle offre, est-ce que vous pouvez m'aider à choisir ?» Et donc j'ai souvent donné aussi les rôles de conseil aussi auprès de ces designers. Et bizarrement, même si je suis chez Vuitton, la confiance est telle que parfois ils me demandent, ils m'appellent pour dire ah, j'ai une offre à telle maison, qu'est-ce que tu en penses et tout. Parce que juste, il y a cette confiance qui passe. Donc,
c'est passionnant.
C'est vraiment passionnant parce qu'on les accompagne, on les voit grandir. Et parfois, j'ai dit, bah, tu pourras, j'ai envie d'échanger de métier, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Il y a des choses comme on est externe et qu'on a vu tellement de designers, de toutes sortes de designs. Voilà, parfois, tu peux donner des idées auxquelles ils n'ont pas pensé. Il y a beaucoup de mobilité aussi dans le groupe chez Vuitton. Et dans toutes les maisons du groupe Vuitton, donc il y a déjà une mobilité interne. Donc par exemple, là je viens de finir deux mobilités, des designers qui sont des designs de produits, qui font des cadeaux, qui font des malles, qui ont envie d'aller dans les bijoux par exemple, dans le sac, et donc la transition est possible. Et également des gens qui sont chez nous et qui ont envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe chez Dior, comment ça se passe chez Loewe, chez Givenchy. Donc il y a toute cette possibilité aussi. Et nous, entre les Talent Acquisition, nous réunissons une fois par mois pour parler de nos postes vacants, pour parler de mobilité entre maisons, pour la partie créative. Donc je sais que ma collègue qui fait la partie produit, c'est-à-dire tout ce qui est produit, je parle, c'est de marketing, merchandising, production. Mes collègues aussi font la même chose pour essayer de fluidifier un peu nos pôles, nos pipelines des créatifs et ne pas le perdre.
Oui, bien sûr.
Donc. Alors là, j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'on n'imaginerait pas forcément. C'est vrai que si on est parfaitement étranger à ce monde-là, parce que forcément, nous, on a tous l'image en tête des directeurs artistiques. Et puis là, c'est vrai qu'on a vu en plus un mercato particulièrement intense ces derniers temps avec un jeu de chaises roulantes assez incroyable. Mais avant même de parler des directeurs artistiques, il y a tout un tas d'échelons en dessous, en fait, dans les ateliers, dans les studios. Et donc finalement, est-ce que vous pourriez un peu nous décrire aussi les différents types de créatifs qu'il y a finalement, parce que au-delà du simple sacro-saint directeur artistique, il y a un tas de viviers en dessous en fait.
Et chez nous, c'est particulièrement facile à repérer parce que comme on est très grand, il faut qu'il y ait une certaine hiérarchie.
Bien sûr.
Et donc c'est vrai qu'en dessous du directeur artistique, il y a le directeur de design, ensuite il y a le head designer, ensuite il y a le senior designer, le designer, le junior designer et l'assistant designer. Donc c'est assez, évidemment ça dépend beaucoup de si c'est au prêt-à-porter, si c'est aux chaussures, aux sacs, mais globalement dans tous les studios c'est à peu près organisé de cette manière-là. Et donc effectivement quand il y a une personne qui quitte, donc je les remplace, donc c'est le RH qui va faire cette remontée d'informations et ensuite je vais voir le directeur de design. Et il m'explique quel genre de profil il aimerait avoir, qu'est-ce qu'il faut dans son panel des gens qui travaillent pour lui, qu'est-ce qui lui manque. Et donc il profite à chaque fois qu'il y a un changement dans le studio pour réorganiser le studio d'une manière à ce que ça soit encore mieux qu'avant. Et c'est à ces moments-là qu'on s'assoit, qu'on discute et moi je vais chercher ensuite la personne.
Et est-ce que ça arrive aussi que, par exemple, vous chassiez des personnes qui sont peut-être des designers freelance ? C'est-à-dire que, par exemple, sur des chaussures ou des choses comme ça, il va y avoir un modèle. On va chercher à faire un modèle, le hit du moment, et on va travailler avec... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de créateurs freelance qui sont contactés, qui travaillent pour plusieurs maisons. Un peu comme on voit dans le monde du parfum, il y a des nez qui viennent de façon freelance, etc. Parfois, il y a des nez qui sont en interne, comme chez Chanel, etc. Mais en fait, il y a une façon beaucoup plus mouvante que simplement un côté top-down, il y a aussi beaucoup d'horizontalité dans ces métiers-là. Donc, est-ce que vous allez aussi chercher des créatifs ponctuels ? Est-ce que vous allez chercher des créatifs qui vont uniquement répondre à une hiérarchie ou qui sont aussi indépendants ? Qu'est-ce que vous recherchez ?
Chez nous, il y a des freelances, mais généralement, ils sont exclusifs pour des questions de confidentialité. Donc, la plupart des freelances qui travaillent pour nous sont exclusives et ils travaillent que pour nous. Parfois, on laisse faire d'autres maisons qui ne sont pas concurrentes. Donc généralement, c'est des petites maisons qu'on considère que finalement, il n'y a pas de raison. Ou alors, c'est parce que la personne travaille dans une certaine catégorie de produits chez nous et dans une catégorie totalement différente pour une autre maison. Par exemple, dans le passé, il y a eu une styliste qui était styliste imprimée. Elle faisait de foulards, mais elle faisait beaucoup de bijoux aussi, mais ça ne nous dérangeait pas qu'elle fasse des bijoux ailleurs, mais pas quand même dans nos concurrents directs.
Oui, bien
sûr. Faut que ça soit dans des maisons qu'on considère qu'il n'y a pas de problème. Parce que malgré tout, il y a beaucoup de confidentialité. Il y a énormément de confidentialité dans les studios de création, y compris chez nous. À l'homme et à la femme, par exemple, ne se voient pas. C'est totalement séparé. Pourtant, c'est la même maison.
Oui.
Mais pour ne pas confondre les idées, peut-être... Donc, on sépare. Ce n'est pas le même étage. Et c'est pour cette raison que chez nous, il y a des freelances. Il y a des freelances, par exemple, des experts. Généralement, les experts sont des freelances. Par exemple, l'autre jour, on m'a demandé de chercher quelqu'un très, très, très spécialiste dans les skiwear. Les gens qui font du ski.
Ah oui, parce que là, c'est très niche.
C'est très technique. Et donc, il a fallu trouver quelqu'un qui ne fasse que du ski.
Oui, bien sûr.
Et du coup, pour le coup, il faisait l'homme et la femme. Parce que c'était tellement niche. Pareil pour les sneakers. Sneakers aussi.
Oui, ça, tout à fait.
On a eu des freelances qui étaient pour la femme et un autre freelance pour l'homme. Deux spécialistes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on préfère avoir des gens qui travaillent en interne. Parce que... Parce que la différence de freelance et des CDI, c'est que les freelances généralement ne sont pas chez nous, c'est-à-dire qu'ils travaillent de l'extérieur, ils viennent ici de temps en temps pour apporter le travail. Et ici, ça va tellement vite, les informations, les changements vont tellement vite que le temps qu'ils reviennent avec ce qui a été commandé, et ben tout a changé. Et comme c'est très grand, personne n'a eu le temps d'avertir le freelance que finalement, Nicolas ou Farrell lui a changé d'avis, que finalement, ce n'est pas comme ça qu'ils veulent. Et donc, c'est un peu de perte de temps. Et c'est pour ça que même les freelances, maintenant, on a tendance à dire qu'il faut rester minimum 3 jours ici chez nous pour pouvoir suivre un peu les flots et les idées et les modifications.
Mmh. Ça peut être des freelances, comment dire, sur une mission de 6 mois, des choses comme ça, mais...
Généralement, ouais. C'est des missions de 1 an.
D'accord.
C'est très intéressant, ça permet aussi de voir un peu comment s'organise tout ça. Et donc, quand vous identifiez qu'il y a un besoin, donc vous êtes très au courant, vous regardez un peu ce qui se fait, comment vous faites pour arbitrer les éléments qui sont nécessaires, ceux qui sont importants pour un créatif, et donc qu'est-ce qui va vraiment faire pencher la balance pour qu'il l'intègre, alors soit en freelance du coup, soit de façon vraiment pérenne, la maison de Louis Vuitton. Et est-ce que d'abord, il y a un petit moment de test ou est-ce que directement, vous essayez de sauvegarder un créatif? Comment ça se passe?
Donc, les critères, généralement, me sont donnés par le design director. C'est eux qui décident ce dont ils ont besoin. Un exemple très concret, par exemple, quelqu'un qui dessine bien. À la main, par exemple. Ah non, nous avons vraiment besoin... À l'architecture, c'est très courant, parce qu'avec CAD, AutoCAD, on perd un peu le côté dessin à la main. Et la Design Direct voulait absolument quelqu'un qui dessine bien à la main aussi, qui sache faire des perspectives rapides à la main, parce que dans un chantier, quand il y a un problème, la personne va et dessine sur le mur ce qu'elle souhaite. Et après, ils prennent des photos et c'est marqué dans le marbre. On ne peut pas dire, ah non, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient, parce que c'est dessiné. Donc, savoir dessiner à la main, c'est quelque chose que pratiquement tous les studios me demandent. C'est très intéressant, parce qu'on revient un peu. Évidemment, Photoshop, Illustrator, il faut savoir aussi, hein, mais maintenant, il y a d'autres design, tout ça. Donc, ça c'est de base, mais réellement, il y a parfois des demandes spécifiques que, du coup, on va chercher de la personne pour ça. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnalités. Parce que parfois, on reste, je sais pas plus, on peut rester 10 heures par jour hein, ensemble dans un studio. Et si le fit entre les gens ne passe pas bien, s'il y a des gens qui sont trop égocentriques, qui n'aiment pas partager, qui ne sont pas très team players, ça se sent, ça peut créer des soucis de groupe et ça peut déséquilibrer un studio très rapidement. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde beaucoup, la personnalité.
Alors ça, je trouve ça absolument fascinant parce que le gros problème dans ces métiers, c'est que forcément, la créativité, c'est dire à quelqu'un « je veux ta singularité ». Et donc le problème, c'est que ça va souvent avec un côté égo aussi, où on peut dire « ah bah je suis le mot final, le point final, parce que c'est ma créativité qu'on attend ». Ce qui n'est pas le cas pour d'autres métiers où il y a beaucoup moins de création. Et par ailleurs, c'est que comme vous le dites, les métiers de créatifs, par essence, c'est pas un métier solitaire, en fait. Il y a beaucoup d'échanges, de rencontres, de compromis, etc. Et donc, c'est très compliqué parce que autant vous pouvez avoir quelqu'un qui est très talentueux et qui avoir une personnalité un peu plus problématique sur la dimension vraiment groupe, comment vous faites pour déjà identifier ces dimensions-là et pour faire l'arbitrage ?
C'est, pour le coup, l'IA ne pourra pas nous aider. Hein. C'est très personnel.
Ouais,
et c'est vraiment entre deux personnes. Il y a des candidats que j'adore, par exemple, et que le directeur de design ou que le senior design ne va pas réussir à matcher. Et ça, c'est tellement personnel que, du coup, c'est difficile de dire... On peut se tromper aussi. Hein. On pense que la personne est top et tout, et elle arrive et... Et c'est pas du tout ce qu'on imagine. Point de vue dessin, point de vue technique, oui, je pense que tout le monde a des prérequis et puis on demande de faire un projet aussi avant, un petit test pour voir si elle a compris l'ADN de la maison, tout ça. Donc, côté plutôt technique, je crois qu'il n'y a pas de souci. Le souci, c'est va être vraiment la personnalité qui va se révéler. Ou quelqu'un d'extrêmement timide,
oui,
qui va être tellement timide que... Bah, il n'y a pas d'échange finalement parce qu'elle n'ose rien dire ou des gens qui n'osent même pas demander des choses, donc qui restent dans son petit coin. Donc tout ça arrive et ça fait que c'est difficile de travailler ensemble.
Et alors justement pour rebondir là-dessus, je pensais notamment à ce que vous avez dit lors de la conférence, à savoir qu'il y a une autre problématique qui vient s'ajouter quand on ajoute aussi le côté multiculturel. Parce que j'imagine que c'est aussi pas évident quand il y a des incompréhensions culturelles entre deux façons de travailler qui sont pas liées à une personnalité, mais à des habitudes culturelles qui sont très différentes. Et il y a ça, il y a également le problème de la langue. Parce que vous parlez notamment du fait que vous étiez il n'y a pas longtemps en Géorgie. Et donc, vous bougez partout. Hein. Vous êtes vraiment une curieuse de toutes les nationalités, ce qui est assez fascinant d'ailleurs pour voir la créativité chez Louis Vuitton. Mais toujours est-il que quand un créatif arrive et qu'il faut qu'il s'acculture à un pays qu'il ne connaît pas, une langue qu'il ne connaît pas, une façon de travailler qu'il ne connaît pas, est-ce que vous intervenez pour l'aide à cette acclimatation ?
Alors, je vais raconter une anecdote qui m'a fait rire, mais c'est quand j'ai passé des entretiens pour être recrutée chez Vuitton. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai passé des entretiens avec le président de l'époque, qui s'appelait Michael Burke. Il était franco-américain et il connaissait ce problème de multiculturalisme. Et alors, il m'a regardé, ah, vous êtes japonaise? Je dis oui, je suis d'origine japonaise. Il m'a dit, vous savez, quand j'ai fait des brainstorms ici, chez nous, ici, dans tout, j'ai fait venir tous mes country managers, country directors. Les seuls à qui je donne la thématique du sujet à traiter, c'est aux Japonais. Et je dis, ah oui, pourquoi? C'est parce que les Japonais, ils entendent le propos. Les propos montent au cerveau et ensuite ça descend à l'estomac pour ensuite sortir à la bouche. Donc ils ont un processus de réflexion qui exige un tout petit peu plus de temps que les autres, notamment les Français où tout passe très vite et les Américains encore plus vite. Et donc il a dit, j'ai compris que si je voulais qu'ils participent à mes brainstorms, il fallait que je passe avant, que je donne la thématique avant. Et comme ça, les jours J, ils venaient et tout le monde participait d'égal à égal. Mais il m'a fallu un certain temps pour comprendre cela. Mmh. Et j'ai trouvé ça tellement juste et tellement vrai. Il a tout de suite compris, oui, les cultures sont différentes. Oui, il faut s'adapter. C'est à nous de nous adapter. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est vrai qu'on a plein de... formation pour justement essayer de montrer un peu nos différences, surtout quand ils passent manager.
Oui.
Bah, à ces moments-là, il faut vraiment faire des formations, des trainings pour faire comprendre les différences des cultures. Et puis, on fait des onboardings, on essaye de faire des onboardings où ils puissent comprendre un peu la culture française un peu plus.
Oui. Oui, parce que enfin, là, par exemple, ce que je trouve notamment passionnant par rapport au Japon, c'est qu'il y a aussi cette volonté de vouloir servir un résultat qui va plaire au dessinateur final. Alors que c'est vrai qu'en France, on a plutôt une façon de se dire « Comment vais-je pouvoir montrer que j'ai bien maîtrisé tous les codes ?» Et aux États-Unis, c'est la dimension « Comment vais-je montrer que je suis innovant ?» Ce qui n'est pas tout à fait la même chose à chaque fois, mais qui pour autant fait des résultats qui... Enfin, un Marc Jacobs qui est très américain, bah forcément une Gabrielle Chanel qui était très française. En fait, on se rend compte que si les deux marchent ensemble, c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, où non seulement on est en période de transition par rapport à... Enfin, période de transition, non, ça a toujours bougé par rapport à la clientèle. Mais par contre, on est dans un contexte de marché qui évolue beaucoup, puisqu'on est dans un secteur qui est actuellement en crise. Est-ce que vous sentez qu'il y a des nouveaux besoins sur la créativité, sur différents types de produits, peut-être plus sur la maroquinerie, la chaussure ou l'accessoire que le vêtement? Vous êtes plutôt sur quelle recherche de quel secteur actuellement?
Alors, notre business principal étant le sac, c'est sûr que je m'oriente plus sur cette catégorie de produits. Même si j'ai fait beaucoup de recrutements pour la haute joaillerie, par exemple, parce que la haute joaillerie, c'est quelque chose de nouveau pour Vuitton.
Oui, ces dernières années, on l'a beaucoup vu.
On a beaucoup vu et c'est vrai que ça a fait un boom énorme avec des belles pièces énormes. Et j'ai beaucoup recruté dans la haute joaillerie et j'ai vu que c'est vraiment très niche,
oui,
encore plus niche qu'ailleurs. C'est comme l'horlogerie, c'est pareil. Mais là, je me concentre sur les sacs et il est vrai que la plupart des jeunes, quand ils s'intéressent à la mode, ils ne veulent pas faire des accessoires, ils veulent faire vraiment du prêt-à-porter. Donc mon rôle actuel, c'est un rôle très important, c'est d'aller dans les écoles pour montrer l'avantage de faire des sacs, des accessoires en général, les bijoux, les lunettes, les ceintures, tout ça, qui complémentent une silhouette et qui change la silhouette en fait. Et du coup, j'essaye de montrer qu'il y a d'autres voies pour être designer, qu'on n'a pas besoin d'être styliste seulement de prêt-à-porter. Et c'est vrai que dans la période des crises, c'est vrai que malgré tout, les sacs, c'est ce qui se vend encore et c'est ce qui se vend mieux dans toutes les maisons pratiquement, dans toutes les marques. Et quand on devient senior dans cette catégorie de produits, et en général, dès qu'on est expert en quelque chose, on devient meilleur et on devient beaucoup plus recherché par d'autres maisons. Et on peut devenir freelance et travailler pour plusieurs maisons différentes. Et ça, je dis, par exemple, la maille, c'est pareil, hein, c'est
oui,
tellement
là,
technique.
Oui, oui, oui.
La joaillerie, mais bon, généralement la joaillerie on peut pas être freelance parce qu'il faut être in-house, mais les bijoux, par exemple, je connais des gens qui font des bijoux pour plusieurs maisons différentes, les imprimer. Donc c'est vrai que les sacs particulièrement, c'est une catégorie de produits, il faut connaître, c'est comme les chaussures, hein. Vraiment, il faut connaître comment se développer, si tous ces dessins qu'on fait, est-ce faisable réellement, la porter, puis créer un sac, c'est difficile. Parce que finalement, c'est pour mettre des choses dedans. Donc, c'est dur hein, de faire des... C'est plus dur de faire des sacs que de faire de prêt-à-porter.
Mais alors là, c'est ça que je trouve absolument fascinant. Parce qu'en fait, dans ce que vous venez de dire là, il y a plein de points qui s'agglomèrent. Donc, le premier étant qu'en période de crise, en fait, on va aussi vouloir, en tant que client, s'orienter vers des choses dont psychologiquement, on a l'idée qu'on pourra les mettre plus souvent. C'est-à-dire que souvent, on va s'habiller pareil ou par rapidité de confort, surtout aujourd'hui dans l'ère du norme corps, etc. Et en fait, un accessoire peut permettre de changer complètement une tenue. Il y a aussi beaucoup cette idée d'un cadeau, donc aussi du sentimental qui peut être lié à un bijou, etc. Et puis les sacs, évidemment, il y a un côté collection. Je veux dire, dans les vêtements, à part de la haute couture, on collectionne peu des vêtements, ou alors on est un fan de vintage, etc. Mais on a moins cette thématique vraiment de se dire, bon, bah aujourd'hui, je me fais extrêmement plaisir, je m'achète un sac, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'en fait, là où c'est quelque chose qui paraît évident de dire, pour autant, dans tous les jeunes qui veulent s'orienter vers la mode, en fait, et ben, surtout en ce moment avec le diable s'habillant Prada 2, etc., dans l'imaginaire collectif, on a les défilés, les vêtements, la mode, c'est une silhouette, etc. Et on oublie tout le décorum derrière. Et je prendrais par exemple Victoire de Castellane, qui aujourd'hui est à la tête de la haute joaillerie chez Dior et qui a longtemps travaillé chez les bijoux, chez Chanel, etc. Qui a aussi travaillé en freelance dans ce monde-là et aujourd'hui qui est vraiment spécialisée dans son domaine sur la joaillerie. Et en fait, il y a des tonnes de personnes derrière qui travaillent de façon transverse dans tout ce qui est l'accessoire. Je dis ça de façon assez longue parce que je sais que Décousu est aussi beaucoup écouté par des étudiants et que il faut pas avoir peur entre guillemets ou niveler par le bas la création autre que dans le vêtement, parce qu'au contraire, c'est un vivier hyper intéressant, non seulement parce que ça recrute déjà dans une période qui est très compliquée, hein, il faut aussi l'avoir en tête. Vous citiez lors de la conférence des chiffres aussi sur le nombre de stagiaires que vous recrutiez dans la maroquinerie versus dans la mode.
Oui, justement. Alors, ça fait toujours surprendre. Ça surprend toujours tout le monde parce que nous avons actuellement 40 postes annuels de stagiaires en design de sacs. et accessoires en général. Hein. Et contre versus 6 en prêt-à-porter. Ah oui, donc là, ça en dit long. En tout cas pour Louis Vuitton.
Oui. Bah après, Louis Vuitton, forcément, c'est une maison de, à la base de bagagerie. Donc c'est très cohérent, mais c'est quand même, c'est une très belle maison. Donc je veux dire, il y a beaucoup de gens qui aimeraient y travailler, j'imagine. Et donc, non seulement il y a ces dimensions-là qui sont importantes, mais du coup, aujourd'hui, quand vous rencontrez des jeunes diplômés, des jeunes étudiants, parce que vous parlez du fait que vous allez beaucoup dans les écoles, quel lien vous avez, vous, avec du coup les tout jeunes qui sont dans les écoles ou qui sortent des écoles pour justement trouver un peu un vivier de créatif? Comment vous faites pour initier le lien avec ces tout jeunes créatifs-là?
Alors, j'ai eu la chance de créer, de lancer un prix qui s'appelle Louis Vuitton Accessories Design Graduate Initiative. Et c'est là où vraiment j'ai pu vraiment aller voir plein d'écoles dans le monde entier, parce que c'est un partenariat que nous faisons avec des écoles de mode, de design et de produits, pour justement essayer de créer et de susciter l'intérêt envers les sacs, envers les accessoires. Et là, nous avons choisi 37 écoles dans le monde entier, et nous venons, moi avec mon équipe, ou parfois avec un designer, pour parler des accessoires, pour parler comment ça fonctionne, comment on dessine chez Vuitton. Donc on s'expose beaucoup plus, on ouvre notre studio aux designers, pour voir justement si ça peut créer une envie d'essayer, parce que c'est un projet qu'il faut faire, bien spécifique, et le gagnant gagne un CDI chez nous.
D'accord.
Et l'avantage de faire ça aussi, c'est que dépendant du parcours de l'étudiant, si par exemple cette année, c'est une étudiante d'une école de produits, de design de produits, qui s'appelle Endoven, et elle a un parcours, un background plutôt dans des produits, des objets normaux. Et donc, dépendant de comment on parcourait, on va créer une rotation. Donc, on veut créer des designers qui soient transverses aujourd'hui chez
D'accord,
Vuitton.
Oui.
Donc, elle va rester 9 mois. Elle va probablement commencer dans les malles, dans les cadeaux, parce qu'elle est designer produit, pour s'adapter un peu à la maison. Et ensuite, elle ira 9 mois, par exemple, à la maroquinerie femme ou homme, et ensuite 9 mois à la petite maroquinerie. Et ensuite, elle choisira et on verra où est-ce qu'elle voudra aller. Mais l'avantage de faire ça, c'est qu'elle va voir tous les studios, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on a recruté à maroquinerie femme, on ne connaît pas les gens de la maroquinerie homme. Vous voyez, donc c'est vraiment très séparé. Et là, on va créer une dynamique d'avoir de plus en plus de designers multitask, multi-studio, et qui voient le fonctionnement de chaque studio. Parce que même chez nous, le fonctionnement de chaque studio est différent.
Oui. Oui.
Donc, du coup, on aura une nouvelle génération de designers qui vont arriver, parce que c'est la 3e édition. On a déjà fait cela avec la fille qui a gagné l'année passée. Elle venait de Royal Academy d'Anvers. Et elle était à la base, elle a fait de la joaillerie. Et donc, elle a commencé chez nous dans les bijoux. Et là, maintenant, elle a fait la rotation à la maroquinerie femme et ensuite petite maroquinerie, ce qui fait que, pareil, on a déjà 2, on va avoir bientôt 3 personnes qui ont déjà cette multi-manière de voir les choses, même chez Vuitton.
Et pourquoi alors ça a été nécessaire de mettre ça en place, ce côté transverse? Est-ce que vous avez identifié qu'il y avait un problème à siloter les choses?
Non, c'est pas un problème, parce que ça fonctionne très bien. C'est juste que le jour où, par exemple, on a un besoin, parce que peut-être une équipe a plus de travail qu'une autre, eh ben, on pourra toujours demander à cette personne si elle ne veut pas donner un coup de main à l'autre équipe, ou le fait de se connaître entre eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou le fait de pouvoir avoir une vision plus globale de nos produits et vraiment avoir cette... Parce que j'ai oublié de dire qu'elle va commencer au retail, elle va commencer dans un de nos magasins, elle va passer quelques semaines à faire la vente pour voir qu'est-ce que nos clients veulent.
C'est ça, donc c'est connaître vos produits, mais aussi vos clients surtout.
Nos clientes, elle va aller ensuite à l'atelier pour savoir comment on fait, comment on construit l'objet.
Ça, oui, parce que alors ça c'est, je pensais à Monsieur Romatet qui parlait justement de cette volonté de l'IFM, donc l'Institut français de la mode, à vraiment remettre la production au cœur de la formation. Parce que ça fait depuis le début des années 2000 qu'en fait, c'est presque comme si les vêtements, les produits sortaient de terre et qu'on avait juste besoin de créatifs et qui disaient « faites ci, faites ça ». Mais en fait, justement, et c'est là où moi je pense que l'IA, alors je suis peut-être une indécrottable positive, mais où l'IA est un formidable vecteur pour tout ça, puisqu'en fait, il nous remet en face de finalement qu'est-ce qu'on ne peut pas déléguer. Ce qu'on ne peut pas déléguer, c'est la main, c'est la créativité, et c'est pas parce qu'elle peut être aidée ou stimulée par l'IA que c'est pas l'humain à la fin qui décide. Et donc finalement, on se rend compte que les savoir-faire, la connaissance du produit, aussi la sensorialité de ce qu'attend un client, en fait, on ne peut pas l'avoir indépendamment de personnes qui connaissent toute la production et tout l'enjeu derrière la faisabilité d'un produit. Et donc, est-ce que vous diriez que c'est ça aussi un des enjeux aujourd'hui dans les créatifs que vous recrutez, d'avoir quelqu'un qui non seulement a une sensibilité esthétique, mais qui en plus de ça a une connaissance technique ?
Oui, parce que, ah oui, indubitablement, hein, et même une sensibilité mode. Parce qu'elle, malgré le fait que la fille qui a gagné, malgré le fait qu'elle soit d'une école de design industrielle,
oui.
Elle avait une grande sensibilité mode.
Oui, tout à fait.
Et ça nous a convaincus parce qu'elle a fait des shootings photos de son sac, le sac qu'elle a dessiné, qu'elle a produit, qu'elle a fait. Et ensuite, elle a fait un shooting photo qui était remarquable, et avec le stylisme des gens derrière. C'était d'une modernité, les choix des couleurs qu'elle a utilisées. Tout ça fait que, effectivement, ça a été quelque chose qui pour nous est très important. Et là, elle va commencer dans les magasins parce que non seulement elle va apprendre à savoir qu'est-ce que les clients veulent, mais aussi comment présenter les sacs. Parce que les côtés VM aussi. Parce que parfois, on peut dessiner des choses qu'on ne peut même pas poser droit parce que ça tombe. Donc, il faut quand même comprendre comment on peut exposer nos sacs, qu'est-ce que ça donne quand c'est exposé en haut, en bas ou au milieu. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'elle va apprendre et qui va l'aider plus tard à dessiner aussi. Ça va faire un tout, je pense.
Et alors, c'est là où forcément, je trouve ça aussi très, très intéressant parce que la contrainte, en fait, est le meilleur, le meilleur associé ou le meilleur allié des créatifs, puisqu'il stimule aussi la créativité. Et donc, une autre contrainte, évidemment, qu'on ne peut pas passer sous silence, d'autant plus que c'est un sujet qu'on traite souvent sur Décousu, c'est la question de l'éco-conception. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de vos réflexions ? Alors, je vais donner un peu plus d'ampleur à ma question parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions auprès des différentes maisons, différents groupes et maisons qui sont dans le luxe français aujourd'hui. Et à chaque fois, alors, je ne dirais pas quelle maison, mais on me répond que « Ah non, le créatif, c'est chasse gardée, on ne parle pas développement durable avec le créatif, c'est les équipes après qui vont interpréter les désirs des créatifs. » Mais du coup, on voit qu'on perd du temps, que finalement, ils sont un peu en train de revenir en arrière en disant « Bon, peut-être qu'il faudrait quand même former déjà rien que d'un point de vue légal et réglementaire sur ce qu'il faut faire, mais aussi pour le sourcing matière. » Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, du polyester recyclé, par exemple ? On a fait tout un épisode très technique là-dessus sur Décousu, si ça vous intéresse d'écouter. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des éléments indispensables quand vous recrutez ou quand vous cherchez un créatif pour aller plus vite par après, tous les enjeux justement de ESPR, etc., d'aller vers un créatif qui maîtrise ces enjeux d'éco-conception ou pour l'instant, c'est pas tellement dans la réflexion ?
Alors, évidemment, tous les jeunes que j'ai vus jusqu'à aujourd'hui sont très sensibles à ça. Ça fait partie... presque de tous les masters ou les BA des collections d'écoles qui le font, tous utilisent du recyclé, de deuxième main, enfin, il n'y a pas un seul qui n'a pas pensé à ça. Donc déjà, c'est dans l'esprit, hein. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans.
Oui,
donc déjà, c'est nouveau.
Oui.
Ensuite, quand ils arrivent chez nous, c'est vrai qu'on a une équipe de sustainability qui est immense et qui analyse tout ce qu'on utilise. Donc effectivement, par exemple, quand on fait un sneakers, ils vont commencer à analyser chaque matériau et pour savoir quelle est l'empreinte carbone que les sneakers finis va donner. Et dépendant, comment on peut changer certaines matières pour adapter et diminuer l'empreinte carbone. Donc, toute cette étude-là est déjà réalisée aujourd'hui avec nos designers. Parce qu'une fois qu'on arrive à savoir, c'est pas possible, ça c'est trop... pas trop écolo, donc comment peut-on faire pour changer cela? C'est avec les designers qu'on fait. Donc, mais c'est au développement durable de proposer des solutions, de voir, de sourcer de nouvelles matières moins avec meilleure empreinte carbone, moins impactant, et comment proposer certaines choses. Donc on a lancé une sneakers qui est complètement écologique, mais qui n'est pas du vrai cuir. Et là où on se dit qu'est-ce que nos clients vont dire, comment ça va accepter. Donc on fait des tests comme ça avec des choses et ensuite on voit les résultats. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nos cuirs, parce que c'est une question qui peut être aujourd'hui même controversée, hein, parce que déjà les crocodiles, il y a beaucoup de maisons qui ne font plus, mais nous on continue parce qu'on va à la source et on contrôle depuis la source. Donc même pour le cuir, c'est le cas.
Hermès aussi a fait ça, a développé en interne une propre certification sur le lézard.
Ouais. Exactement. Tu ne peux plus faire autrement aujourd'hui.
Bien sûr, bah, oui.
Et donc du coup, on a commencé à faire pareil pour le cuir. Donc on va dans les fermes,
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein. Mmh. Et on va voir chaque vache, chaque taureau. On fait des audits, on va les caresser. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils sont bien? Ils sont hyper bien traités, nos vaches. Et je veux dire que c'est incroyable parce que c'est une équipe qui est allée, je ne sais pas combien de fermes en Italie, en France, en Espagne, pour justement voir d'où viennent nos vaches, qu'est-ce qu'elles mangent, comment elles sont traitées. Ça va depuis de zéro.
Mais vos créatifs, les créatifs qui y intègrent et qui vont devoir après travailler cette matière, est-ce qu'ils sont formés à ces questions? Est-ce que vous les emmenez sur le terrain?
Alors, ils sont formés parce que par la force, surtout les senior designers et les head designers, mais ils ne vont pas aller visiter les fermes. Non, ça, ils ne font pas. Mais par contre, ils ont le choix. Et ils ont le choix, on vient avec chez eux avec des matières, soit recyclées, soit ceci, soit cela. Et donc, du coup, ils commencent à réfléchir, ils commencent à participer dans la réflexion de comment peut-on faire pour mieux, et côté régénération aussi, régénérative,
oui, non,
matière générative, tout ça. Ils commencent vraiment à réfléchir à la base. Mais ils ne sont pas à l'origine.
Oui.
Donc, on a une équipe développement durable qui fait toutes les recherches à l'avance. Et ensuite, avec nos fournisseurs, ils proposent des solutions. Et par la force des choses, nos designers font partie. Ceux qui étaient très impliqués, beaucoup, beaucoup, dès le départ, c'est surtout le côté parfum.
Oui.
Donc, notre nez parfumeur, M. Jacques Cavalier-Beltrout, lui, il est extrêmement impliqué sur l'origine des fleurs, des parfums, de tout ça. Et il a fait une belle campagne en faisant revenir certaines fleurs qui n'existaient plus parce qu'elles étaient justement tellement prises qu'elles finissaient par devenir rares.
Mmh.
Et donc, il a créé des fermes avec des fermiers qu'il connaissait dans le monde entier. Hein. Il voyage beaucoup aussi pour trouver ces fleurs rares. Et lui, il a été très, très, très actif dans le développement durable, justement, de certaines choses de la nature. Et la partie aussi joaillerie.
Oui.
Joaillerie, haute joaillerie.
La question des diamants de sang, c'est très important.
C'est extrêmement mêlé dès l'origine.
Bah, voilà, c'est aussi pour ça que je pose cette question, parce que j'ai quand même l'impression que quoi qu'il arrive, même d'un point de vue purement compliance, comme on va vers ça, en fait, c'est aussi une vraie valeur ajoutée d'aller vers des créatifs qui non seulement connaissent la matière, mais aussi, du coup, tout ce qu'elle suppose. Par exemple, quand on parle de cachemire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de travailler soit avec une mouton pour la laine ou une chèvre pour le cachemire, et de savoir qu'en fait, la chèvre, elle arrache la racine, et donc, du coup, ça fait du surpâturage, alors que, par exemple, un mouton, c'est pas le cas. C'est des choses très bêtes, très terre-à-terre, mais en fait, si on le sait pas, bah, on design comme on veut, comme ça, et après, c'est beaucoup plus chronophage de devoir réinterpréter. Donc, je me demandais si c'était quelque chose qui était en interne. Mais ça va permettre de faire la transition vers la dernière question de cet entretien. Finalement, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez à l'avenir que seraient un petit peu les grands éléments fondamentaux pour un créatif qui voudrait intégrer Louis Vuitton ou une autre maison? Qu'est-ce qu'un créatif aujourd'hui à l'avenir devrait vraiment commencer à travailler aujourd'hui pour avoir une vraie valeur ajoutée comparée à des concurrents sur un marché où vous cherchez par exemple un créatif?
Je pense que aujourd'hui il faut être très... C'est un peu bête ce que je dis, mais il faut être original, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même. C'est la première chose, parce que, comme je disais, chacun a une manière de trouver ses origines, de créer, c'est quelque chose. Mais parfois, si on ne sent pas une vraie légitimité de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, ça se sent, hein, tout de suite, ça se sent en entretien. Donc, il faut vraiment, quand on fait quelque chose, il faut faire vrai. Par exemple, le développement durable. Hein. C'est très... Si on dit juste, ah, ben, je ne veux pas utiliser les cuirs parce que, vous comprenez, mais on n'est même pas vegan ou rien, c'est un peu... Ça fait bizarre. Il vaut mieux être plutôt vrai dans sa démarche ou ne rien dire. Ou alors faire quelque chose qui vraiment, parce que tu tiens au cœur, parce que tu crois et tu luttes pour. Tu vois. Et aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans une belle école, quand on a fait tous les parcours jusqu'à la fin, et a priori, ce qui va compter, c'est beaucoup la personnalité, encore une fois. Donc, quand tu passes des entretiens dans une grande maison comme la nôtre, mais n'importe laquelle, même une petite maison, c'est d'être curieux, d'avoir envie de démontrer cette passion que tu as par la création, par le design du produit que tu es en train de faire, par l'envie d'apprendre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est le côté personnalité. Montrer que tu as envie, montrer que tu, malgré la diversité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'écoles de mode, il y a énormément de concurrence sur le prêt-à-porter ou les chaussures, les sacs, mais malgré tout cela, chacun est différent et c'est cette particularité, cette différence de personnalité qui va compter, je pense.
Donc, éteindre son téléphone et se demander qu'est-ce que j'aime quand je ne regarde pas les réseaux. Il y a ça aussi.
Il faut absolument arrêter de regarder les réseaux parce que c'est une vraie tuerie. Hein. Je pense qu'on a parlé la dernière fois qu'on s'était vu, ces côtés uniformisation des goûts. Parce que Pinterest, ça fait vraiment... Donc, il faut aller aux bibliothèques, il faut aller voir, il faut aller aux expositions, il faut aller...
Ah, ça manque pas les expos mode en ce moment.
Ouais. Et nos designers, ils demandent. Hein. Les head designers, généralement, ils demandent quelle est ta dernière exposition que tu es allée, quel est l'artiste que tu aimes, est-ce qu'il y a un architecte que tu adores ou pas, comment tu fais pour trouver tes inspirations, comment tu fais pour te nourrir créativement, quel est le dernier livre que tu as lu. Tout ça, c'est demandé en entretien. Donc, si on sent que c'est un peu creux parce que finalement la personne a dit « Ah, mais j'aime, je sais pas, Jeff Koons parce que c'est le seul nom qu'il a en tête. » Ça se sent. Donc, il vaut mieux dire, il vaut mieux se préparer avant, aller commencer à
mais
se nourrir, mais sincèrement. Il faut vraiment s'intéresser parce que tout est lié aujourd'hui. Je crois que la mode, c'est un art qui... D'ailleurs, c'était le dernier Met Gala, c'était « La mode est un art ». Et c'est vrai parce que finalement... Aujourd'hui, les créateurs de mode se nourrissent de l'art, se nourrissent de l'architecture et vice-versa. Hein. Je pense que les gens de l'art aussi vont se nourrir un peu dans la mode aussi. Donc,
Mais là où justement je trouve que la mode est encore plus fort, c'est que c'est un art mais qui n'agit qu'au présent. C'est-à-dire que c'est une industrie, surtout avant que d'être de l'art. Et donc du coup, il faut aussi savoir répondre à l'ère du temps. Et donc en fait, autant l'art, par exemple comme Van Gogh, on peut s'offrir le luxe d'être découvert plus tard, autant la mode, il faut avoir une sensibilité qui capte à l'instant T aussi comment rencontrer son public. Ce qui est peut-être aussi plus compliqué. Eh bien écoutez, merci beaucoup Millie.
Merci à vous.
C'est un plaisir.
Et puis j'espère à très bientôt pour avoir la chance de rediscuter de ce sujet absolument passionnant.
Merci beaucoup. Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et bien sûr, un immense merci à Millie de la Valette pour la finesse de son regard et pour cette plongée dans un sujet rarement visible, celui du recrutement créatif dans les grandes maisons de luxe. Ce qui était particulièrement intéressant dans cette conversation, tout du moins selon moi, c'est qu'elle montrait à quel point la création ne naît jamais seule. Elle dépend aussi des regards qui savent l'identifier, la protéger, l'encourager, parfois même avant qu'elle ne soit complètement formulée. Et dans une époque où tout semble accéléré, mondialisé et algorithmique, il y a quelque chose d'assez rassurant à entendre que la curiosité, la singularité, la culture personnelle et l'émotion restent encore profondément décisives. Alors comme toujours, si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir Décousu très simplement en partageant l'épisode autour de vous, en laissant une note ou un commentaire sur votre application de podcast, et surtout en rejoignant l'épisode sur Instagram, sur son compte Décousu Podcast. Allez, moi, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode.